enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Lorsque Sanballat apprit que nous, les Juifs, nous nous mettions à rebâtir la muraille, il laissa éclater son irritation et sa colère. Par ailleurs, il se moquait de nous en déclarant devant ses compatriotes et les soldats de Samarie, « Qu'est-ce que ces Juifs minables essaient de faire? Vont-ils arriver au bout de leur entreprise et offrir des sacrifices à leur Dieu? Vont-ils achever aujourd'hui même leurs travaux de construction en réutilisant des pierres arrachées au top des combres incendiés? » Tobia, l'ammonite, était à ses côtés. Il s'exclama, « Quelle construction! Il suffirait qu'un renard grimpe sur leur mur de pierre pour le démolir. » Ils sont mis à se moquer, puis à ridiculiser le travail qu'ils faisaient. Je continue. Je continue la lecture avec les versets 7-8. « Mais quand Sanballat, Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens, et c'est un peu plus loin, apprirent, parce que là, ils sont rendus où est-ce qu'ils avaient construit la moitié de la muraille. Apprirent que la construction de la muraille de Jérusalem progressait et que les brèches étaient en voie d'être refermées, ils laissèrent éclater leur colère. Ils s'entendirent pour venir tous ensemble attaquer Jérusalem pour y semer le désordre. Et je continue avec les versets 10 et 11. Cependant, Judas disait, les forces des porteurs vacillent, les décombres sont considérables, nous ne parviendrons jamais à bâtir la muraille. Et nos adversaires disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Ils avaient prévu de s'infiltrer parmi eux puis de les tuer. Ils essayaient de miner leur courage. Ils prononçaient des paroles de mort sur eux. Il y avait plein de contacts puis d'amis à l'intérieur, parce qu'il y avait de la parenté, parce qu'il y avait eu des mariages mixtes. Puis là, ils faisaient circuler plein de rumeurs. Ils se proposaient de les décourager. D'ailleurs, il y avait assez bien commencé. Hein? Les gens de Juda disaient, les forces vacillent, les décombres sont nombreux, on n'en viendra jamais à bout, il y a bien trop d'ouvrages. Il se proposait ensuite qu'une fois découragé, il s'infiltrait puis il les achèverait. Et l'ennemi de nos âmes, c'est comme ça souvent qu'il s'y prend. Il s'y prend de la même façon. Il essaie de nous convaincre que la tâche est trop lourde, qu'on ne pourra jamais venir à bout de ce qu'on a à faire. Ça, c'est des ennemis que Néhémie a eu. Deuxième ennemi que Néhémie a eu, et c'est des ennemis qu'on rencontre nous aussi, c'est l'injustice. L'injustice. Je continue dans Néhémie, mais je change de chapitre. Au chapitre 5, versets 1 à 5. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes une grande plainte contre leurs frères judéens. Les uns disaient, « Nous, nos fesses et nos filles, nous sommes nombreux. Nous voulons recevoir du blé afin de pouvoir manger et vivre. » D'autres disaient, nous encourageons, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour recevoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères, nos fils sont comme leurs fils. Nous réduisons à l'esclavage nos fils et nos filles. Plusieurs de nos filles sont déjà réduites. Nous sommes sans ressources, nos champs et nos vignes appartiennent à d'autres. » Et là, j'aimerais vous dire qu'il y avait une injustice très grande qui avait lieu. L'injustice qui avait lieu, c'est que le peuple, qui était les gens moins à l'aise dans le peuple, subissait une très grande injustice, c'est qu'eux autres, ils avaient pris tout leur bien, tout ce qu'ils avaient comme ressources, puis ils l'avaient donné pour la construction du mur. Puis là, ils étaient en train de construire le mur. Pendant ce temps-là, ils ne pouvaient pas travailler dans leur champ puis faire profiter leur champ. Fait que leur business ne marchait plus, eux autres, parce qu'ils travaillaient sur le mur. Et là, les gens plus riches leur avaient prêté de l'argent sur leur champ, mais avec intérêt. Et la loi juive interdisait ça. C'est interdit pour les Juifs de prêter avec de l'intérêt. Tu peux prêter à ton frère, pas avec de l'intérêt. Ils prêtaient avec un intérêt de un centième, c'est-à-dire 1% par mois. Ça veut dire 12% par année. C'était très élevé pour l'époque. Fait qu'il profitait du malheur qu'il avait, mais pas juste ça. Comme, finalement, il travaillait au mur, il n'était pas capable de payer. Fait que là, qu'est-ce qui se passait? Ils donnaient leur fils et leur fille en esclaves en attendant, en se disant, on va les racheter plus tard. Mais comme ils travaillaient au mur, ils disaient, on n'aura même pas d'argent pour pouvoir racheter nos fils et nos filles. En plus, la loi juive ne permettait pas qu'ils puissent donner leur fils en esclave. Ils pouvaient juste donner leur fille parce qu'il fallait qu'ils restent des fils sur la terre pour veiller au bien, mais finalement, ils désobéissaient en prenant les fils pareils. Il y avait aussi d'autres choses qui n'étaient pas respectées. C'est que finalement, l'esclavage, c'était pas comme l'esclavage qu'on voit où les gens sont esclaves pour la vie. Chez les Juifs, ça fonctionnait pas comme ça. L'esclavage, ça pouvait pas durer plus que 6 ans. La 7e année, il y avait le jubilé, puis les esclaves redevenaient libres. Puis ils devaient être traités comme des travailleurs et non pas comme des esclaves. Puis ils pouvaient pas les laisser partir après 6 ans avec rien. Il fallait qu'ils leur donnent quand même comme un salaire, quelque chose qu'ils puissent repartir avec. Ensuite, après l'année de jubilé, leur dette était remise d'habitude. Mais là, c'est pas comme ça qu'ils fonctionnaient. Ils profitaient d'eux autres, puis ils accordaient avec ça. Puis là, eux autres, ils pouvaient pas travailler tranquille. Ils pensaient juste à ça. Comment je vais faire? Là, mes filles sont rendues esclaves. Mon fils est rendu esclave. Je suis rendu avec des dettes. Tu sais, quand tu travailles, tu fais plein de pensées dans la tête. C'était leur obstacle qui arrivait. C'était l'injustice qui venait les troubler. Et souvent, c'est comme ça pour nous aussi. Souvent, on laisse l'injustice qu'on peut voir ici et là parmi les chrétiens nous arrêter dans notre tâche. On va voir des situations autour de nous, puis on va dire que c'est pas juste, il arrive telle chose, il y a telle affaire qui se passe. Puis là, l'injustice nous tracasse, puis là, on n'est plus efficace, puis là, on ne peut plus travailler dans l'œuvre de Dieu parce qu'on laisse l'injustice nous empêcher d'entrer dans l'œuvre de Dieu. OK, c'était un des ennemis qu'il a rencontré. Maintenant, troisième ennemi, l'intimidation. L'intimidation. Et maintenant, on va aller dans le chapitre 6. Trois ennemis, trois chapitres. Le chapitre 6 de Néhémie. Alors, au verset 1, ça dit, « Lorsque Sambala, je ne sais pas si vous avez, oui, OK. Lorsque Sambala, Tobia, Geshem, l'Arabe, et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il ne restait plus de brèche. En ce temps, je n'avais pas encore posé les battants des portes. Il avait déjà fini les murs, il restait les portes. Sambala et Geshem m'envoyèrent ce message. Viens, rencontrons-nous à Kephirim, dans la vallée d'Ono. Ils se préparaient à me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. J'ai beaucoup de travail à faire et je ne peux pas descendre. Pourquoi le travail serait-il interrompu pendant que je le quitterai pour descendre vers vous? Ils envoyèrent 4 fois le même message, et je leur rendis la même réponse. Leur truc fonctionnait pas. Ils sont pas arrêtés là. Ils ont continué. On va continuer avec le verset 5, vous allez voir. Sambala m'envoya ce même message une 5e fois par son qui tenait à la main une lettre ouverte. Oyez, oyez! Écoutez tout le monde! Une lettre ouverte, tout le monde l'entend, OK? C'est pas juste la lettre qu'il a donnée. Il l'a lit devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il a lu devant tout le monde? Le bruit se répand parmi les nations et Gashmou affirme que toi et les Judéens, vous vous préparez à vous rebeller et que c'est pour cela que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même désigné des prophètes pour proclamer à Jérusalem à ton sujet, il y a un roi en Juda. Maintenant, des rumeurs de ce genre arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et discutons. Là, vraiment, il a essayé de l'intimider vraiment puissamment. Là. Il s'est mis à faire courir une rumeur à son sujet, devant tout le monde, une rumeur qui pouvait affecter même le roi. Puis là, il a dit, écoute, tu ne veux pas que ça aille plus loin, viens me voir, on va discuter. Mais c'est pas tout. Il a été plus loin que ça dans son intimidation. Il a fait une deuxième tentative d'intimidation. Néhémie 6, 10. Je me rendis chez Shemaïa, fils de Dalaïa, fils de Mehetabéel, qui s'était enfermé. Et il dit, « Allons ensemble à la maison de Dieu, à l'intérieur du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. » On voit ici deux tentatives d'intimidation qui sont dignes des meilleurs scénarios de Hollywood. D'abord, Sambala envoie une invitation piège, première chose. Il essaie de le piéger. Comme Néhémie ne se laisse pas prendre, puis qu'il voit que c'est un piège, là, il envoie une lettre ouverte pour le discréditer. Ça a beaucoup d'impact, ça. Ça aurait pu détruire, le détruire complètement, détruire sa réputation. Les rumeurs, ça peut faire beaucoup, beaucoup de ravages. Moi, j'ai un ami à moi qui est professeur d'école. On a étudié en même temps, dans le temps, à l'université. Et puis, il enseignait dans une polyvalente. Puis pendant qu'il enseignait à la polyvalente, une fois, comme ça, tout bonnement, il y avait une jeune fille dans sa classe qui avait des mauvaises notes, avait des difficultés, puis voulait l'aider, il dit, reste donc près de la classe. Puis la fille n'a pas voulu rester, elle est sortie. Fait que là, il est sorti dans le corridor, puis l'a interpellé, il a juste mis la main sur l'épaule comme ça. Puis là, elle s'est mise à crier bien fort. T'es dans le corridor, vous savez qu'avec la cloche sonne, tous les jeunes qui circulent. Lâche-moi, mon écœurant, nanana. Puis t'as essayé d'abuser de moi, puis c'est pas la première fois, puis ta. Puis là, la foule s'est ramassée. Puis là, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je voulais juste te parler pour. Non. Là, ça a créé un comité de discipline. Il a été suspendu pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, la jeune fille, elle a été voir ses parents, puis elle a dit à son père et à sa mère que, dans le fond, elle avait fait toute cette grosse histoire-là. Elle voulait leur attention parce qu'ils ne s'occupaient pas d'elle. Fait que là, ils ont rencontré le comité d'école, puis là, elle a dit ça devant tout le monde, devant le comité, devant les directeurs. Là, lui est venu, puis là, ils l'ont rétabli en place, puis ils ont rétabli les faits. Pensez-vous que ça arrêtait là? Mais non, parce que tous les jeunes à l'école qui avaient été dans le corridor, qui avaient eu connaissance de ça, eux autres, pour eux autres, ils se souvenaient de ça. Puis l'année suivante, quand la classe a commencé, lui s'est dit, bon, c'est fini, on va commencer une nouvelle année. Mais tous ces nouveaux élèves, c'était des jeunes qui avaient entendu la rumeur, qui s'étaient fait dire par un autre, « Ah, tu as ce prof-là, t'es pas chanceux, avec lui, watch-toi, parce que lui, il abuse des filles, nanana, puis il surveille-toi, puis... » Mais là, c'était pas vrai. Mais il était trop tard. La rumeur était partie. Puis quand il était dans la classe, il y avait toujours un malaise. Tout le monde avait un malaise avec lui. Tout le monde était mal à l'aise avec lui. Lui, il avait plus de plaisir à enseigner là. Il était obligé de changer de commission scolaire, changer d'école, de déménager de place à cause de ça. Juste vous dire, les rumeurs, ça peut détruire. C'est vraiment puissant, l'intimidation. En tout cas, tantôt, je vais vous expliquer comment on va résister à toutes ces attaques-là, OK? Mais, souvent, le fait d'avoir de l'intimidation va faire que l'intimidation qu'on subit va nous faire reculer, va nous faire abandonner. Même les gens qui vont nous mettre en doute, « Oh, mais es-tu vraiment bon pour faire ça? T'as pas vraiment... Ouais, c'est pas si pire ce que tu fais... » Je joue pas si bien que ça du piano, là, Charles, là. Tu devrais laisser ta place dans un autre. Puis là, tout à coup, le doute vient. Moi, c'est peut-être que je suis pas à ma place. Puis... Pourtant, des fois, un mois avant, on était convaincus, c'est Dieu qui m'a mis là, c'est mon appel, c'est ça qu'il faut que je fasse. Puis là, tout à coup, parce que quelqu'un nous met un doute, qu'on est-tu vraiment à notre place, qu'on fait-tu vraiment la bonne chose, tout à coup, oh, mais là, on recule, puis là, on sera plus jamais bon, puis on pourra jamais faire ça, on tient plus ferme. Maintenant, je vais vous donner les recettes, on va pas rester négatif là-dessus, OK? Comment vaincre? Avec l'intégrité, avec l'encouragement et avec la persévérance. C'est comme ça qu'on peut vaincre. D'abord, face à l'infiltration. Néhémie, d'abord, c'est pas dans le texte que j'ai sur cette étape-là, mais dans le chapitre 4, au verset 4, Néhémie a prié. C'est la première réaction qu'il a eue face au découragement. La première réaction, il a prié. Avant toute chose, il a prié. Puis une fois fortifié, Là, il a encouragé les autres. Là, on voit ici au verset 14-15. Je regardai, je me levai et je dis aux notables, aux magistrats et au reste du peuple, n'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur qui est grand et redoutable. Et combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis et que Dieu avait fait échouer leur projet, nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Néhémie les a placés devant une autre réalité. Il les a placés devant la réalité spirituelle. La réalité spirituelle, c'est que peu importe comment gros est ton ennemi, peu importe comment il est redoutable, Dieu est plus gros puis il est plus redoutable encore. Ton ennemi, il est tout petit comparé à Dieu. Même si ton ennemi est vraiment gros, Dieu est encore plus immense et plus gros. Et c'est lui notre solution. OK. Deuxièmement, Néhémie les a encouragés. OK. Verset 19-20. Je dis aux notables, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille. Éloignez les uns des autres. Rassemblez-vous auprès de nous, et au lieu où vous entendrez la trompette, le son de la trompe, notre Dieu combattra pour nous. Notre Dieu combattra pour nous. Les encouragés, n'ayez pas peur, Dieu va combattre pour nous. Vous vous souvenez, quand il arrive des situations comme ça, où est-ce qu'on a des attaques, que Dieu est de notre bord. Dieu est de notre bord. On a le plus grand de notre bord. Puis dans le fond, il faut être proche les uns des autres pour être fort. Il faut rester groupé. Puis là, Dieu va combattre pour nous. Il faut rester ensemble. Il faut se grouper ensemble. Il faut serrer les coudes ensemble. Il ne faut pas être chacun de notre bord à faire notre affaire. Il faut se grouper ensemble, travailler ensemble. Au son de la trompette, ils se groupaient tous. Puis là, tout à coup, l'ennemi faisait face à une armée. Il était des milliers, là, eux autres. Mais éparpillés, ils faisaient face un à un. C'est pour ça qu'il avait dit, si je sonne la trompette, on se rassemble tous là. OK. Et ensuite, ils ont été persévérants. Dans ce même temps, Néhémie 4, 22, 23. Dans ce même temps, je dis encore au peuple, que quelqu'un passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Ils monteront la garde pour nous la nuit, et le jour, ils travailleront. Et nous ne quittions pas nos vêtements. Nous ne quittions pas nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Juste vous dire une chose. Oui, ça a pris 52 jours. Mais 52 jours, ils n'ont pas pris de douche, là. 52 jours à travailler sans arrêt. 52 jours à être le même linge sur le dos, là. 52 jours à dire, il y en avait un en avant qui gardait avec une cuirasse, puis il y en avait un en arrière qui travaillait, puis après ça, ils s'échangeaient ça. Toute la journée sans arrêt. La nuit, il veillait la garde, ça veut dire qu'il dormait peut-être 4-5 heures seulement, parce que pendant qu'un dormait, l'autre gardait. C'était sans cesse, c'était intense, c'était 52 jours, oui, c'était vite 52 jours, mais c'était intense. Ils ont mis tout ce qu'il y avait, ils étaient persévérants. Ils ont été jusqu'au bout, ils ont donné toute leur force, ils ont mis le maximum. Ils étaient prêts à payer le prix. Ils ont été persévérants. OK. Donc, c'était de voir la réalité spirituelle, d'être encouragé et d'être persévérant. Maintenant, comment vaincre l'injustice? Face à l'injustice. Face à l'injustice. OK. Lorsque j'entendis leurs plaintes et toutes ces réclamations, je fus saisi d'une violente colère. Et là, vous vous souvenez de l'injustice qu'il y avait, là. Est-ce que vous vous souvenez de la justice qu'il y avait? Il était rendu que leur fils était en esclavage, qu'ils perdaient leur terre, puis qu'ils travaillaient, puis qu'ils ne savaient plus, ils n'avaient plus de revenus. OK. Je résolus de faire des reproches aux notables et aux magistrats, et je leur dis, « Quoi? Vous prêtez à intérêt à vos frères? » Et je convoquai à leur sujet une grande assemblée. Je leur dis, « Nous avons racheté, selon nos moyens, nos frères judéens vendus aux nations. » Vous vendriez vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus. » Ne trouvant rien à répondre, ils se turent. Néhémie n'a pas toléré l'injustice. Il n'est pas resté insensible face à l'injustice. il y a eu une colère. Il n'a pas péché, mais il s'est choqué. Il n'a pas accepté ça. C'était quelque chose qui était... C'est injuste. Pensez une chose. Néhémie, lui, il était à Babylone, puis il était quand même quelqu'un qui avait de l'argent. OK? Puis il y avait beaucoup de notables avec lui qui avaient de l'argent. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait avant de s'en venir? C'est que Néhémie a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de son argent, puis il a racheté tous ceux qui étaient esclaves à Babylone. Tous les Juifs qui étaient esclaves à Babylone, ils les rachetaient à leur maître pour qu'ils soient libres, pour qu'ils puissent aller à Jérusalem reconstruire, puis qu'ils soient libres. Là, il dit, nous autres, on a dépensé des fortunes pour qu'ils soient libres, puis là, vous autres, vous allez les réduire en esclavage à nouveau. C'est quoi ça? Vous allez les faire envoyer à Babylone? On a payé un prix, là, pour ça, puis là, vous autres, vous allez en profiter. C'est quoi, là? C'est injuste. Et Néhémie, dans le fond, a attaqué la source du problème. La source du problème, c'était pas ce que les gens disaient. Si vous vous souvenez, ils disaient, les trois fois qu'il y avait eu des gens qui se plaignaient, ils se plaignaient qu'ils n'avaient rien à manger pour commencer. On n'a rien mangé, on n'a rien mangé, on n'a rien mangé. Néhémie avait beaucoup de ressources. Il aurait pu dire, ben, je vais leur acheter du blé, on va faire du pain, puis ils vont manger. Mais c'était pas ça, le vrai problème. Néhémie a attaqué la vraie source du problème. Il n'a pas toléré l'injustice. Il n'a pas juste dit, c'est pas grave. Il s'est attaqué à la source du problème. C'est pas la fin, le problème. Le problème, c'est que eux autres subissaient une injustice, puis c'est ça qui était le vrai problème. Je vais continuer. Néhémie s'est impliqué personnellement. Parce que là, tantôt, vous vous souvenez, ils ont gardé le silence. Quand il leur a dit ça, ils n'ont rien trouvé à dire. Ils ont gardé le silence. Fait, qu'est-ce qui serait passé? Ils auraient continué de la même façon. Ils n'ont rien dit. Hein? Ils se sentaient attaqués, mais ils disent bon. Ils n'ont rien dit. Mais Néhémie voulait que le problème se règle. De quelle façon il a réglé le problème? Il s'est impliqué personnellement. OK. Je vais... Puis il dit... Vous n'agissez pas bien. Ne devriez pas vivre dans la crainte de notre Dieu. Pour ne pas être outragé par les nations, par nos ennemis, il leur dit, la façon dont vous vous comportez, c'est pas une bonne façon. Vous n'aurez jamais de bénédiction en faisant ça, en exploitant le peuple, en n'obéissant pas à la loi de Dieu. Moi aussi, mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. C'est sûr que Néhémie ne leur avait pas prêté avec intérêt, par exemple. OK? Mais il a vu qu'il avait des besoins, il leur avait prêté. Mais regarde, il s'implique. Remettons-leur cette dette, je vous prie. Je vous en prie. Rendez-leur aujourd'hui même leur champ, leur vigne, leur olivier, leur maison, ainsi que l'intérêt, le centième de l'argent du blé. C'était le centième, mais c'était 1% par mois. Du vin et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, nous les rendrons, nous ne leur demanderons rien. Tout à coup, ils ont catché là, qu'ils ne seraient pas bénis à agir comme ça, il fallait qu'ils changent. Nous ferons ce que tu dis. Alors, j'appelai les prêtres devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Parce que là, les intentions étaient bonnes, ils étaient touchés. Mais ils voulaient être sûrs que ça reste. Fait qu'il les a fait prêter serment devant les prêtres. Puis même quelqu'un fait prêter serment, je n'ai pas le texte là, qui est écrit, mais si vous irez voir dans la suite du texte, il a secoué le pan de sa robe, puis il a dit, si vous obéissez, si vous observez pas, tenez pas votre parole, que Dieu vous secoue comme ça, qu'il se débarrasse de vous autres comme ça. Donc, Néhémie s'est impliqué personnellement, il a dit, moi aussi, je vais leur remettre, faites-le avec moi, on va le faire ensemble. Il s'est impliqué, il a participé. Et ça a été sa façon de les encourager, dans le fond. De s'impliquer personnellement, c'était la façon qui a pu les encourager à le faire. Je continue. Et Néhémie a donné l'exemple. Dès ce jour où le roi ordonna que je sois gouverneur dans le pays de Juda, OK, ça vous ne l'avez pas sur votre sur le PowerPoint, mais je vais quand même vous le lire, OK? Vous avez à partir du verset 16, je vais vous lire à partir de 14. Dès ce jour où le roi ordonna que je sois leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi, ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Lui était gouverneur, il avait le droit d'avoir un revenu comme gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et percevaient de lui pain et du vin, ainsi que 40 sicles d'argent par personne. Leurs serviteurs eux-mêmes dominaient en maître sur le peuple, mais moi, par crainte de Dieu, je n'ai pas agi de sorte. Et voici, bien plus, j'ai travaillé à la préparation de cette muraille, nous avons acheté aucun champ, et tous mes serviteurs rassemblés étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, judéens et magistrats, sans compter ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On apprêtait chaque jour pour mon compte un bœuf, 6 moutons choisis et des volailles. Et tous les jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai pas réclamé les revenus du gouverneur parce que le service pesait sur le peuple. Ce qu'il dit, c'est que lui était devenu gouverneur, là. Puis en étant gouverneur, il devait normalement percevoir une taxe qui revenait à lui pour pouvoir avoir un train de vie de gouverneur. Mais lui a pris juste ses propres ressources à lui. Puis avec ses propres ressources à lui, il a survenu à ses besoins. Pas juste à ses besoins. Il y avait toujours 150 personnes, des notables, des gens importants qui venaient à sa table, tout ça parce qu'il était gouverneur. Il n'a jamais demandé une scène au peuple. Jamais, parce qu'il savait que le peuple avait déjà, avait mis tout ce qu'il avait pour construire le mur. Il a été là pendant la 22e année jusqu'à la 32e année. Ça faisait 12 ans. Pendant 12 ans qu'il a été gouverneur, il n'a jamais rien demandé au peuple. Aucune taxe, rien. Il aurait été en droit de le faire, mais il ne l'a pas fait parce qu'il voulait leur donner l'exemple de donner aussi. Fait que Néhémie a donné l'exemple et ça les a aussi encouragés. OK? Face à l'injustice qui est faite envers les autres, on peut s'investir soi-même. Face à celle qui est faite à nous, il faut faire confiance à Dieu. Quand c'est nous qui subissons l'injustice. Néhémie 5,19 dit, « Souviens-toi favorablement de moi, mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. » Néhémie a dit à Dieu, « Pour ce qui est de moi, pour mes besoins, moi je te fais confiance. » OK. Face au troisième ennemi, l'intimidation. Face à l'intimidation. OK. Faire face et de dire la vérité. Je lui répondis, « Ce genre de rumeurs dont tu parles n'existe pas, c'est toi qui les inventes. » Il a dit carrément, « C'est toi qui inventes ça, c'est des menteries. C'est pas vrai ce que tu dis. » Peu importe, et des fois c'est difficile de dire la vérité. Des fois c'est difficile de se tenir pour la vérité. Des fois il y a une pression très grande. Moi je me souviens d'une fois dans ma vie, où est-ce que j'étais jeune à ce moment-là, j'avais peut-être 20 ans, 21 ans. J'ai suivi un cours de mécanicien de machine à coudre. Croyez-vous ça? J'ai déjà été mécanicien de machine à coudre. Et pendant que j'ai suivi le cours de mécanicien de machine à coudre, on était 10 employés qui avaient été envoyés chacun par leur entreprise pour devenir mécanicien de machine à coudre. Fait qu'on avait une formation. C'était une coopération avec le gouvernement. Ce qui arrivait, c'est que le gouvernement payait nos salaires, payait une partie des payait tout l'argent qui était pour les matériaux. D'un autre côté, non, c'était pas nos salaires, c'est ça. Les matériaux et les professeurs étaient payés par le gouvernement. Pendant ce temps-là, nous, on était continués à être payés par nos employeurs. Dans mon cas, moi, c'était mon beau-père qui était mon employeur. Je travaillais pour mon beau-père, il avait une grosse manufacture de couture. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que dans le cadre du cours, on avait deux professeurs. Un professeur qui était un mécanicien, un homme assez âgé, qui était un vieux mécanicien avec beaucoup d'expérience, qui nous montrait vraiment comment réparer les machines, tout ça, qui mettait beaucoup de son temps. On avait un autre spécialiste qui devait nous apprendre à faire de l'électricité, de la soudure, de la lecture de plans, de l'électronique. Et ce monsieur-là, en vérité, était, entre nous, là, c'était une grande gueule, OK? C'était un gars qui parlait beaucoup, mais qui ne savait pas grand-chose. On arrivait dans le cours de soudure, puis il disait, « Ben, moi, j'ai pas vraiment d'expérience. Il y en a souvent un type qui connaît ça. » Puis là, il y en a un qui disait, « Ah ouais, moi, j'ai fait de la soudure, mais tu peux-tu montrer aux autres? » Puis là, lui, il passait sa journée dans le bureau du directeur à jaser avec lui. Puis là, à un moment donné, on avait un cours de lecture de plan, puis il disait, « Oh, je suis pas trop familier. Est-ce que quelqu'un ici qui connaît ça? Ah ouais, moi, j'en ai fait. OK, tu peux-tu donner un coup de main aux autres? » Puis il partait. On le voyait pas, ce prof-là. C'était le prof fantôme. Il arrivait au début du cours, il revenait à la fin du cours. OK? C'était tout le temps quelqu'un du cours qui avait des habiletés qui nous montrait comment faire. On apprenait quand même, mais c'était pas grâce au prof. Tout à coup, il y a une convocation qui est faite pour faire l'évaluation. Ça fait 6 mois qu'on a des cours, puis ça avance, puis ils veulent savoir c'est quoi le rendement, puis la satisfaction des patrons. Fait que il y a le gouvernement qui est là, il y a tous les chefs d'entreprise qui sont là, les manufactures, et la direction d'école qui est là. Puis mon beau-père, lui, c'était un gars de plancher. C'était un gars qui menait bien son entreprise, mais c'était pas un gars de papier, puis de rencontres, puis de meetings. Fait que il dit, écoute, vas-y donc ma place. Fait que moi, je me retrouve à cette rencontre-là. Je suis le seul qui, en vérité, est un gars qui suit les cours, là. Toutes les autres, c'est des patrons. Moi, je représente mon patron. Puis là, tout à coup, il nous donne une feuille avec un bilan, avec la liste de toutes les choses qui ont été achetées. Juste une petite parenthèse avant, c'est que le vieux mécanicien qui nous donnait des cours, à un moment donné, il me dit... Je voulais acheter un set de ratchet, il dit, je comprends pas, il dit, ça coûte pas bien cher pourtant, puis ils m'ont dit qu'il y avait plus de budget pour ça. Il dit, moi, j'ai même pas acheté rien, j'ai pas dépensé une scène, puis il dit, il y a plus de budget pour ça. Fait que là, quand il me passe la fête, moi, je vois la liste de toutes sortes de belles choses qu'on est supposé d'avoir achetées pour nos cours, puis tout ça. Puis je vois que là-dedans, tout le matériel, la plupart du matériel qu'il y a là, à part une coupe de robe à souder, là, c'est toutes des choses qu'on n'a pas vues dans le cours, qu'on n'a pas utilisées, qui sont pas là. Mais qui ont été achetés par le professeur super compétent. OK? Là, j'étais un peu mal à l'aise. Parce que, là, OK, aujourd'hui, j'ai 40 ans passés. J'ai beaucoup d'assurance, puis Dieu vit avec moi, puis je suis quelqu'un de différent. Mais à cette époque-là, là, j'étais un flou, là, j'avais 20 ans, là. OK? Puis là, quand il arrive à mon tour, il dit, pourrais-tu me donner un peu ton feedback? Puis là, je décide, moi, je suis un chrétien, là. Puis je tiens la vérité. Puis je vais dire la vérité, coûte que coûte. Fait que là, je me lève, puis là, je dis, bon, ben, la feuille qu'on a là, ça, c'est du vol. Ça, le professeur en question, là, il n'a jamais apporté ce matériel-là. Pour moi, c'est chez eux, dans sa cave. Puis je dis, en plus, le professeur de mécanique, c'est un excellent professeur, mais le deuxième professeur, on ne l'a jamais vu au cours. Puis là, le directeur s'insulte, puis il dit, mais comment ça? « Ah, mais tu fais bien de me le dire. » J'ai dit, « Je m'excuse, mais il passe ses journées dans votre bureau. » OK. Bon. C'est sûr que quand la session a recommencé, j'ai passé d'une note A+ à une note B-. OK? Par ce professeur-là, c'est sûr. Hein? Lui, il ne m'aimait plus. Là. Oh. OK. Puis c'est sûr que les patrons, dans le fond, si je ne l'avais pas dit, ça aurait changé les choses pour les patrons. OK? Pour les patrons, c'était pas eux autres qui payaient la marchandise, c'est le gouvernement. OK? Mais c'était la vérité. Puis moi, je me tenais pour la vérité. Quelles conséquences ça a eu à long terme sur moi? À long terme, finalement, mon beau-père a décidé d'arrêter autrement son entreprise, puis de plus faire de couture sur place, de donner la couture à faire, puis il faisait juste la taille. Fait qu'il a fallu que je me trouve un emploi ailleurs. Puis la première place que j'ai cognée, le patron, il m'a reconnu. Je te reconnais, toi. Tu commences lundi. J'ai ouvert un nouveau chiffre, j'ai besoin d'un mécanicien. On ouvre un chiffre de nuit, tu vas travailler de nuit. Alors, j'ai commencé à travailler comme mécanicien de nuit. Après 3-4 mois, ils ont fermé le chiffre de nuit. De lundi, je suis allé cogner à une autre porte. Puis le patron m'a reconnu, il m'a dit, tu commences lundi. J'ai besoin d'un deuxième mécanicien. T'es un gars honnête, je t'apprends. Quand je suis parti de là, c'est parce que je suis parti de ma propre entreprise. OK? Je veux juste vous dire que quand on se tient pour la vérité, il y a des conséquences à long terme. Mais des fois, c'est difficile. Némi, c'était pas facile nécessairement parce qu'il savait que là, la rumeur venait de partir. Là. C'était dangereux, là, mais c'était la seule chose à faire. C'était la seule chose à faire. Il n'y avait pas d'autre solution. Faire face et dire la vérité. Face à l'intimidation, quand quelqu'un essaie de nous intimider, il faut dire la vérité. C'est tout. C'est vrai, c'est pas vrai. OK? On continue. Ensuite, il a demandé à Dieu le courage, parce que souvent, ça prend du courage pour dire la vérité. Ici, on a, tous ces gens voulaient nous faire peur et se disaient, ils perdront courage et l'ouvrage ne se fera pas. Maintenant, donne-moi courage. Donne-moi du courage. Néhémie s'est adressé à Dieu, c'est tout. Moi, je me souviens qu'à cette époque-là, j'ai eu beaucoup de fois à faire face à des situations parce que, à quelque part, j'avais pas confiance en moi. J'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui. J'étais très gêné, très timide. Être en avant comme ça, j'avais les mains tellement moites que j'aurais fait ça sur mon vêtement, il aurait été tout mouillé. Là. Tu sais, c'était effrayant. Mais j'ai commencé à comprendre une chose. J'ai pas confiance en moi, mais ce n'est plus Christ qui vit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai confiance en Christ qui vit en moi. J'ai confiance en Jésus qui vit en moi. Puis à partir du moment où, à chaque fois qu'il y avait une situation où je manquais de confiance, je disais, j'ai confiance en Jésus, Jésus vit en moi. J'ai confiance en toi, Seigneur, c'est toi qui vas le faire en moi. Puis à partir de ce moment-là, ça s'est mis à changer. Et c'est comme ça, on peut demander à Dieu le courage. Dieu, donne-moi du courage. Néhémie, c'est ça qu'il a fait. Il a demandé à Dieu du courage, c'est tout. Et finalement, il faut tenir ferme. Je répondis, et ça, c'est ça, on le voit dans le troisième exemple, la troisième tentative d'intimidation. Je répondis, un homme comme moi prend de la fuite. Vous vous souvenez, il a dit, viens, ils veulent te tuer, on va s'enfermer dans le temple, OK? On va s'enfermer dans le temple pendant toute la nuit, comme ça, tu ne seras pas tué. Néhémie a répondu, un homme comme moi prend de la fuite. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Un homme ne pouvait pas entrer dans le temple. C'était juste les sacrificateurs qui pouvaient entrer. Tu ne peux pas aller cacher au fond du temple, là. Normalement, s'il y en a un qui rentrait là et qui n'était pas digne, il mourait. Néhémie, il dit, je ne rentre pas là. C'est un piège, ça, là. Je m'étais aperçu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il avait prononcé sur moi cette parole prophétique parce que Tobia et Sambala l'avaient soudoyé. Il avait payé le prophète. Il l'avait soudoyé ainsi pour que j'aie peur et que je suive ses avis et que je pêche. Il voulait le faire pêcher. Il m'aurait alors fait une mauvaise réputation pour me déshonorer. Il faut tenir ferme. Si on ne tient pas ferme, ce qui va arriver, c'est qu'on va pêcher. Il faut persévérer dans la vérité. Si on ne persévère pas dans la vérité, souvent la vérité, le mensonge, c'est le premier pas qui nous amène dans une espèce de cascade de péché. C'est comme ça souvent. Tu commences par un mensonge, puis là, ça t'entraîne même juste à regarder David, là, tu sais, un péché amène un autre péché, tu sais. La convoitise qui a amené le meurtre, tu sais. Tu commences par faire des concessions sur quelque chose, puis ça entraîne plein d'autres choses. Il faut arrêter ça là. Il faut dire la vérité, puis il faut tenir ferme. OK. Le succès de Néhémie se trouve dans son attitude. Tu peux prendre la prochaine diapositive. Le succès de Néhémie se trouve dans son attitude. L'attitude face aux situations. C'est l'attitude des trois C. Caractère, confiance et courage. C'était un homme de caractère. Intègre, qui ne voulait pas faire de compromis avec le péché qui craignait Dieu. C'était un homme de foi qui avait une confiance complète en la fidélité de Dieu. Et c'était un homme courageux qui se tenait debout pour Dieu. C'est le caractère de Néhémie, son attitude, qui a fait sa réussite face à ses ennemis, puis qui a fait qu'il a pu réussir à reconstruire la muraille. J'aimerais vous suggérer une chose aussi, finalement. En guise de conclusion, j'aimerais vous suggérer une chose, c'est que la confiance de Néhémie, ça lui vient de sa relation avec la Trinité. La relation avec les trois personnes de Dieu. Parce que dans la relation avec le Père, c'est ce qui nous donne un sentiment d'appartenance. C'est ce qui lui donnait le sentiment d'appartenance. C'est ce qui nous donne le sentiment d'appartenance. On n'est pas n'importe qui. On est des enfants de Dieu. On est des enfants de Dieu. On n'est pas n'importe qui. On est des enfants de Dieu. La relation avec le Fils nous donne un sentiment de valeur. On a de la valeur. C'est juste se rendre compte le prix qui a été payé pour nous. Le prix qui a été payé, c'est Jésus. Notre relation avec Jésus devrait nous affirmer la valeur qu'on a Jésus est mort pour nous. On avait assez de valeur à ses yeux pour qu'il meure pour nous. Tu valais assez la peine pour que Jésus meure pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Jésus est mort pour toi. Et finalement, la relation avec le Saint-Esprit qui nous donne la puissance pour accomplir des tâches. La puissance qui vient de l'Esprit de Dieu qui vit en nous. OK. Maintenant, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne connaissez pas cette relation-là, que vous n'avez pas cette relation-là avec Dieu. Peut-être que vous l'avez tous, mais peut-être qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas cette relation-là avec Dieu. J'aimerais, on aime toujours donner la chance à ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas la relation que Néhémie avait avec Dieu, d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Parce que c'est ça qui nous sauve, c'est la relation avec Dieu. J'aimerais vous donner une chance pour avoir cette relation-là avec Dieu. Et pour ça, nous devons d'abord reconnaître qui on est. Reconnaître vraiment qui on est. On est coupable et sans défense devant Dieu. Dans Romains 3, 23, ça nous dit « Tous sans distinction ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qu'il leur avait assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu ni accéder à sa glorieuse présence. » Le péché nous sépare de Dieu. On n'a pas accès à Dieu parce que Dieu, il est saint. C'est comme, aussitôt qu'il entrerait en contact avec nous, il serait plus saint. On ne peut pas entrer en... Naturellement, on pourrait pas, parce qu'on est des pécheurs. Il faut reconnaître qui on est, il faut reconnaître qu'on est pécheur. On n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Il n'y a pas un seul qui est juste. Et la seule façon pour être sauvé, c'est par Jésus. Seulement Jésus qui peut te sauver. C'est pourquoi Dieu offre à tous, dans Romains 3, 24, ça nous dit, c'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Tous peuvent à présent être justifiés, c'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu par pure grâce. Ils reçoivent cette faveur comme un cadeau immérité de la générosité divine, et cela fut possible parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer, parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Il a payé pour nous. Et c'est lui qui vient faire le pont entre nous et Dieu. C'est le seul pont qu'il peut y avoir. Autrement, c'est le vide entre nous et Dieu. Pour avoir accès à Dieu, c'est Christ, c'est Jésus qui fait le pont. C'est le seul chemin pour amener l'homme à Dieu. Il faut recevoir le don de Jésus-Christ pour pouvoir donner son enfant. Jean 1,12 nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Je ne sais pas à quel endroit vous êtes. Je ne sais pas si vous êtes déjà avec Jésus, si vous avez déjà passé le pont, si vous avez déjà accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Vous pouvez être d'un côté ou de l'autre. Et avant Christ, vous n'êtes pas avec Dieu, donc c'est la mort, la rébellion, le péché, la misère. Et avec Christ, aussitôt qu'on traverse, on devient avec Dieu, et à ce moment-là, c'est la vie, la paix, le pardon et la joie qui vient en nous. Je vais vous donner comment on peut devenir enfant de Dieu, OK? C'est très simple. D'abord, première étape, il faut accepter qu'on ne peut pas se sauver soi-même. Peu importe ce que tu vas faire dans ta vie, ça ne va pas pouvoir te sauver. Éphésiens 2, 8, 9 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est pas parce que tu viens à l'église à tous les dimanches. Tu viens à l'église à tous les dimanches, ça ne fera pas de toi un chrétien. C'est sûr et certain. C'est pas parce que tu as une vie bien correcte, puis que tu fais attention à tout le monde, puis tu prends soin de tout le monde, puis tu es gentil avec tout le monde. Ça sera pas assez. Parce que ça s'achète pas. Tu peux pas l'acheter, c'est un cadeau. Un cadeau, tu peux pas l'acheter. Faut juste que tu le reçoives. Quand même que tu ferais plein de choses pour acheter ton cadeau, il veut pas te le vendre, il veut te le donner. Faut juste que tu le prennes. Si tu le prends pas, il sera pas à toi, c'est tout. Fait qu'il faut que tu acceptes que tu peux pas l'acheter, que tu peux pas te sauver toi-même. Que faut juste que tu le prennes. Deuxièmement, il faut que tu te tournes vers Dieu et que tu changes de direction. Ça prend une repentance. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, dans Actes 17, 30, 31, dit « Maintenant, à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts, c'est-à-dire Jésus. » On a besoin, on s'en va dans une direction quand on ne connaît pas Dieu. On s'en va vers la mort. On a besoin de changer de direction. Peut-être tu vas dire, oui, mais j'ai quand même beaucoup de choses à changer dans ma vie. Je ne changerai pas tout du jour au lendemain. Non, tu n'as pas changé, tu es à la même place. Tu as changé de direction, par exemple. À cette heure, tu ne t'en vas plus par là. Tu t'en vas par là. Et là, maintenant, les choses vont se mettre à s'améliorer. Puis les choses vont se mettre à changer dans ta vie. Tu t'en vas dans la bonne direction, tu t'en vas vers Dieu. C'est un changement de cap. Tu dis, je ne veux plus continuer dans la vie que j'avais. Je ne veux plus continuer dans le péché. Je ne veux plus continuer. Je veux changer. OK. Ce n'est pas instantané. Là. Il y a des choses qui restent là, là, pour l'instant. Mais ça va changer. Il faut être patient après. On a changé de direction. Il y a une marche à suivre après. Tu t'en vas vers Dieu. Yes. Ta vie va changer. Mais tu es déjà une nouvelle personne parce que tu es déjà sauvé, parce que tu es déjà dans la bonne direction. On a besoin d'une repentance. OK? Accepter qu'on ne peut pas se sauver soi-même. Se repentir. Troisièmement, il faut confesser de sa bouche. Confesse avec ta bouche que Jésus est ton Seigneur en croyant de ton cœur qu'il est ressuscité des morts. Romains 10, 9, 10 dit, si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il n'y a pas d'option, c'est comme ça. C'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, il faut le dire. Il faut le confesser de notre bouche. Il faut le dire à haute voix. Il faut croire, mais il faut le dire qu'on le croit. Finalement, il faut être prêt à le confesser devant les autres aussi. Matthieu 10, 32-33 nous dit, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. » On a besoin, pour devenir un enfant de Dieu, de reconnaître que Jésus est notre Seigneur, de reconnaître que Jésus est notre Sauveur, de se repentir de notre vie passée, et on a besoin de le confesser devant les autres. Et si c'est le cas que vous ne connaissez pas Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur, je vais vous donner l'opportunité de le faire. Pierre dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus et le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Vous allez voir ce qui va se passer, c'est que l'Esprit de Dieu va venir habiter en vous. J'aimerais juste vous donner l'occasion, si c'est le cas, de venir en avant, ou peut-être juste de lever votre main pour commencer. Si vous ne connaissez pas Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur, je ne vous connais pas tous ici, moi, je ne connais pas tout le monde, je connais presque tout le monde. Ça se peut qu'il n'y a personne qui n'est pas déjà né de nouveau et qui n'a pas déjà donné sa vie à Jésus comme Sauveur et comme Seigneur. Mais si c'est le cas, je veux vous donner une occasion de le faire. Une occasion de donner votre vie à Jésus, de l'accepter comme votre Seigneur, votre Sauveur. Aussi, si vous êtes prêt à faire ce geste-là, si vous êtes prêt à faire ce move-là, j'aimerais vous inviter à lever la main maintenant avec moi. OK. Tu peux venir en avant. S'il y en a d'autres, vous pouvez venir en avant. Je vais prendre un temps pour prier avec vous. Amen. Je reviens de travailler dans le bois. Je suis content, mon ami, que tu sois là. Yes. Amen. Merci, Seigneur. C'est simple, on va prier ensemble, OK? On va demander... Tu as juste à répéter avec moi. OK? Ça va être facile. Puis on va répéter avec toi, en plus. OK? Seigneur Jésus, je te demande. Tu as juste à répéter avec moi, OK? Ouais. De devenir mon Sauveur. Je me repens de ma vie passée. Je veux maintenant devenir ton enfant. Je veux que tu sois mon Seigneur. Je reconnais que c'est juste par toi que je peux être sauvé. Et je te demande maintenant d'entrer dans ma vie et de me diriger. Je te prie au nom de Jésus. Amen.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.